Oui, parce que c'est archivé, notre compte.
C'est archivé.
C'est fort. Hein,
c'est archivé, c'est même scanné. Le problème, c'est un problème d'identification, de façon à ce que les gens qui ont écrit leur proposition ne soient pas cités personnellement. Quoi. Ils ont fait œuvre utile pour tous les Français. Bon, enfin voilà, c'est de la concentration, c'est de la contradiction et de la concertation que naissent quelquefois des idées, disons. Donc c'est dommage de mettre ça dans le placard. Mais enfin, comme tout remonte aux chefs de l'État, après tout...
Bah maintenant, il le sait.
Maintenant, il le sait, oui. Oui. Bah oui.
Mais ça sert à rien.
Ça sert à rien, oui.
Oui, c'est pas...
C'est ce qu'on a souvent dit ici. Ça sert à rien.
Ça a permis de dégonfler le sujet. Oui. Sinon, j'ai encore des trucs.
C'est fort, hein. Oui. Mais ça, oui, c'est t'as beaucoup de choses. Je vois que t'as beaucoup de choses. Hein, oui.
Oh là là, c'est affreux parce que j'étais absent. Mais je vais trouver un moyen.
Oui, oui. Il y a pas des redondants ou des articles qui se collent à d'autres, si.
Je vais faire travailler les auditeurs.
Ah oui. Ben moi, c'est pareil, j'ai retrouvé un article. La semaine dernière, j'avais lu un article. Ben Henry qui s'en souvient, c'est « Tout le monde déteste la police ». Alors, je l'ai vu, le livre. Je ne l'ai pas feuilleté, mais je n'ai pas eu le temps.
D'ailleurs, je ne dirai rien ce soir. Parce
non, on ne dira rien. Je l'ai vu en vente à Publico.
Moi, j'ai 1200 raisons de détester la police.
Oui, c'est ça.
Moi, je ne dirai rien.
1312, pardon.
Mais tu peux en parler très librement, très tranquillement ce soir, puisque... On m'a reproché de t'avoir coupé la parole et finalement d'avoir phagocyté la chose et que tu n'as pas pu dire grand-chose.
Ah bon, c'est... Oh, ouais, je sais pas. Si non, il me semblait que... Étant donné que je l'avais déjà lu, donc j'ai assimilé d'autres choses, quoi, personnellement. Donc,
alors vas-y, il n'y a pas de souci.
Ben non, je passais à autre chose à côté. C'est juste à côté.
Tu peux toujours.
Oh non, parce que là, bah, qu'est-ce que tu veux j'avais eu envie, j'ai pas eu le temps d'acheter le livre, voilà.
Parce que si elles avaient été résumées, ça nous aurait fait une émission d'au moins 10 heures, là, 1300.
Et oui, voilà, donc c'était quand même... Ouais,
c'est pas mal, 1300.
Non, puis il faut lire le bouquin, je pense qu'il est assez bien argumenté, charpenté, voilà. Alors là, l'autre à côté, c'est pareil, mais bon, il est intéressant. Enfin, je pense que... Je connais pas Yves là-dessus, mais Henrik, nous on se connaît bien sur les idées que l'article va nous raviver. Bon, on les a toujours en tête, nous. Hein. C'est en pernitence, trois pater, deux AV et 2 milliards. Alors, trois pater, deux AV, je me suis dit, je suis un peu loin du truc, mais non, et 2 milliards, hein, y a de l'argent derrière. Donc, on a toujours su, mais on n'imaginait pas à quel point les abus sexuels, principalement sur mineurs, étaient monnaie courante au sein de l'Église catholique.
Oh
oui. Alors, les langues, entre parenthèses, et les plaintes commençant par trop à se délier, donc effectivement, c'était en novembre 2018, la conférence des évêques de France croyant que l'incendie pouvait être circonscrit, tentant un coup de poker en chargeant une commission indépendante d'enquêter à ce propos. Alors, peine perdue, puisque le 5 octobre 2021, exactement trois ans après, 5 octobre 2021, cette commission présidée par Jean-Marc Sauvé, ancien président du Conseil d'État, rendit son rapport. Diabolique, en une demi-douzaine de décennies, plusieurs centaines de milliers d'enfants auraient été victimes de la grande armée des pères touche-touche. Ça, c'est triste, non, comme ça, mais oui. Mais ça fait rire quand même, ça m'a fait sourire un peu. Alors, sur le reculoir, hein, l'Église a tenté de contester la méthodologie, mais elle a été obligée de plaider coupable. D'où obligation d'indemniser les victimes. Of course, en chipotant sur le montant en disant qu'elle était pauvre. L'Église est pauvre. Alors, la Libre Pensée vient de publier une enquête chirurgicale sur cette pauvreté. Via ses fédérations départementales, elle a fait une autopsie de la plupart des biens de l'Église en France. Photographie, descriptif à la clé, estimation charitable du Trésor, 8 milliards d'euros. Soit au moins le double. Donc, largement de quoi indemniser ses victimes. Le coût de l'indemnisation étant estimé à 2 milliards. Alors oui, non seulement l'Église doit payer, mais elle peut payer. Vous ignorez que l'Église, soi-disant des pauvres, était si riche. Ce livre va vous ouvrir les yeux, carrément. Ce n'est pas un polar, c'est juste la Bible des croyants, ni Dieu, ni maître. C'est Jean-Marc Perrault. Alors pour vous dire, le livre, il est, bon, en vente à Publico, bien sûr, dans le 11e, mais il est à la librairie de la Libre Pensée, ben oui, c'est du rue des Fossés-Saint-Jacques, hein, 10-12 rue des Fossés-Saint-Jacques, dans le 5e, toujours à Paris. Voilà.
Ah! Post non-radio show avec vous ce soir, chers auditeurs et auditrices.
Oui, bah, moi j'avais un truc sur. Oui. C'est sur Le Monde du 17 novembre, c'est assez récent, qui concerne la définition du viol. Parce qu'en fait, le titre c'est « La France refuse que l'Union européenne intervienne dans la définition du viol ». La France considère que ça relève du droit pénal et donc de la compétence des États, tandis que seuls les eurocrimes, la corruption, le terrorisme ou l'exploitation sexuelle inscrits dans l'article 83 du traité sur le fonctionnement de l'Union font exception à ce principe. Et justement, répond l'autre camp, le viol peut être considéré comme une exploitation sexuelle. Alors d'où ça vient tous ces trucs ? Eh bien, il y a eu un projet de loi présenté par la Commission le 8 mars 2022 qui fait plutôt consensus. Qui serait pour créer une directive sur la lutte contre les violences faites aux femmes, la violence domestique, qui veut notamment interdire les mariages forcés, les mutilations génitales féminines, le harcèlement sexuel ou encore la stérilisation forcée. Donc ce projet de loi, il fait plutôt consensus, mais il y a un point qui cristallise les oppositions. Je suis en train de piller un article de Madame Virginie Malingre dans Le Monde du 17 novembre, donc, et il s'agit de savoir si les 27 adoptent ou non une définition commune du viol qui entraînera une convergence des sanctions à l'échelle européenne. Alors, le Parlement européen a arrêté sa position en juillet. Il est impératif que ce soit le cas et que cette définition communautaire du viol soit assise, comme le propose la Commission, sur la notion de consentement. C'est-à-dire, en clair, il suffit que la victime n'ait pas consenti à l'acte sexuel pour que le crime de viol soit caractérisé. Les deux institutions, donc la Commission et le Parlement, sont sur cette approche. Et ils disent, seule cette dernière approche permet la protection complète de l'intégrité sexuelle des victimes. Donc ça, c'est dans l'article 5 du projet de loi de la Commission que le Parlement a repris dans son intégralité. Le Parlement, on l'élit, je vous rappelle. Bon. L'eurodéputée suédoise socialiste et démocrate qui s'appelle Evin Intzir dit « Seul oui veut dire oui ». Et les parlementaires ont indiqué qu'ils ne pourraient se satisfaire d'une législation qui ferait l'impasse sur la question du viol dont sont victimes, selon le rapport de l'INSEE publié en décembre 2021, plus de 100 000 européennes chaque année. La chasse est ouverte, apparemment. 100 000. L'ensemble de l'Union européenne devrait adopter la même position pour que sur la question, donc. Mais le sexe sans consentement est un viol et il est impossible d'accepter d'autres exigences que l'absence de consentement, a déclaré Elena Dalli, la commissaire à l'égalité, le 9 octobre. Alors, les États membres, pour leur part, ont décidé d'exclure des négociations l'article 5 du projet de loi de la Commission. Une partie d'entre eux, au premier rang desquels la France, mais aussi la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, ne veulent pas entendre parler d'une définition européenne du viol. L'Allemagne n'est pas enthousiaste. Par contre, la Grèce, l'Italie, la Belgique, le Luxembourg, la Croatie, la Suède, l'Irlande, l'Espagne et le Portugal y sont favorables. Mais au niveau de faire passer une directive, ça ne suffit pas. Au sein de l'Union européenne, chaque pays a sa propre définition de ce crime. En Belgique, la loi introduit la notion de consentement comme l'élément constitutif principal du crime, comme dans 15 autres États membres. Ailleurs, la définition du viol est d'abord et avant tout basée sur l'emploi de la force pour le commettre. En France, par exemple, on considère que le viol est constitué quand il y a un acte sexuel qui a été commis sous la menace, ou la contrainte, ou la surprise, ou la violence. Alors, Paris et les gouvernements opposés à l'article 5 donc, font valoir que ça relève du droit pénal et donc l'UE. Du droit pénal, oui, pardon.
Pas du droit pénal.
Oui, du droit. Et donc, ça ne concerne pas l'UE et basta. Bon, alors, les gens qui militent pour une définition du viol par le consentement ou l'absence de consentement disent que. Ils ont utilisé déjà exactement cette base juridique pour criminaliser les activités sexuelles avec des enfants en 2011 et qu'il n'y a pas d'argument juridique pour ne pas l'utiliser maintenant, dit Madame Elena Dalli. La France avait à l'époque soutenu ce texte. Pourquoi une telle volte-face en 2023 s'interroge l'eurodéputée française Nathalie Collin-Oesterle. Elle rappelle qu'Emmanuel Macron a fait de sa lutte, de la lutte contre les violences faites aux femmes, la grande cause de ses quinquennats et elle dénonce un revirement du président de la République. Rien qu'en France, dit-elle, au moins 10 femmes sont victimes chaque heure d'un viol ou d'une tentative de viol, ajoute l'élu. Alors, dans une lettre envoyée à Emmanuel Macron, à la première ministre Elisabeth Borne et au ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti, le 13 novembre, près de 40 députés, dont Aurélien Taché, Sandrine Rousseau, des sénateurs, dont Yannick Jadot et Mélanie Vogel, écologistes et socialistes, appellent le gouvernement à changer de pied. Alors écoutez bien, vous savez combien il y a de plaintes pour viol qui aboutissent à une condamnation en France ? Eh bien, il y en a 0,6%. En France, 0,6% des plaintes pour viol aboutissent à une condamnation. L'introduction de la notion de consentement dans la définition du viol ferait une véritable différence pour les victimes de violences et contribuerait à pallier les lacunes du code pénal. 0,6% des plaintes pour viol, c'est pas beaucoup, hein, qui aboutissent... Bon, je suis pas fanatique des condamnations, il s'agit pas de condamner pour condamner, mais quand même, il y a des condamnations qui sont de l'ordre du bracelet électronique ou des choses comme ça, qui sont de l'ordre du symbole, et quelquefois le symbole fait très mal, ou l'absence de droit de vote, ou des choses comme ça. Enfin, il y a différents moyens de condamner les gens, sans pour autant les mettre dans des geôles, qui sont d'ailleurs surchargées. Lorsqu'elle a été reçue à déjeuner à l'Élysée le 31 octobre, la présidente du Parlement européen, qui s'appelle Madame Roberta Metsola, a évoqué le sujet avec Emmanuel Macron, qui, dit l'article, est resté silencieux face à ses arguments. Alors, il y a, ouvrez les guillemets, là, c'est Emmanuel Macron qui a décidé, qui a arbitré et décidé que la France ne souhaitait pas une définition européenne du viol assise sur la notion de consentement, confie une source européenne. Dans l'entourage du chef de l'État, certains issus de la gauche le plus souvent voudraient le voir changer d'avis. Alors, mardi, interrogé, Laurence Beaune, la secrétaire d'État chargée de l'Europe, regrette que le texte ne soit pas aligné sur la Convention d'Istanbul. Alors, j'ai pas le texte de la Convention d'Istanbul, mais c'est un traité du Conseil de l'Europe contre les violences faites envers les femmes dont l'UE est signataire, et que la France a ratifié. 6 États membres, la Bulgarie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la République tchèque et la Slovaquie, doivent encore le faire. Et comme la proposition de directive de la Commission, ce texte définit le viol à partir de la notion de consentement. Pas exactement dans les mêmes termes que le Parlement européen ou la Commission le propose, mais enfin bon, c'est quand même la même idée. Une autre source européenne dit on ne va pas introduire dans notre droit une nouvelle définition du viol qui ne serait pas celle de la Convention d'Istanbul qu'on a ratifiée. Et il propose de s'aligner sur la Convention d'Istanbul, ce qui permettrait, termine l'article, à l'Élysée de bouger sans se renier. C'est très curieux. Voilà. C'est quand même affolant qu'on ait un état de droit. On dit on est un état de droit. Ah ouais. Pour les hommes, j'ai envie de rigoler, un état de droit pour les hommes, c'est quand même 0,6% des plaintes pour viol aboutissent à une condamnation. Alors évidemment, on a une définition, nous, qui est quand même restrictive, en ce sens que seulement la menace, la contrainte, la surprise de la violence. Bref, c'est la loi, ce sont les parlementaires qui l'ont fait. On pourrait bouger, disons. Voilà, c'est ce que j'avais à raconter sur ça.
0,6, ça, c'est étonnant.
C'est étonnant.
Enfin, c'est pas étonnant, c'est...
C'est zéro, quoi. C'est du délire.
On va dire c'est zéro, oui. Comme s'il ne se passait rien du tout, oui.
C'est extrêmement difficile, mais il faut déjà que les femmes acceptent de se rendre dans... un commissariat pour porter plainte, ce qui n'est pas forcément facile. Bon, voilà, donc, ouais. Et encore, la situation semble avoir bougé, puisqu'il y a maintenant des femmes dans les commissariats, il y a des formations, etc. Oui. Donc, 16,6% et correspond à un état... Bon, la dernière statistique, disons quoi.
Oui, c'est récent, ça, quand même. Oui. Enfin, je ne sais pas, même si ça avait un an, c'est pas ancien, quoi. Voilà, ouais.
Ben, c'est un chiffre qui est avancé par les 40, la quarantaine de parlementaires là, qui ont signé un texte qui appelait le gouvernement à changer de pied. On va dire, je ne veux pas dire du mal, mais disons parmi les 40 députés, il y a Aurélien Taché, Sandrine Rousseau, des sénateurs Yannick Jadot et Mélanie Vogel, écologistes et socialistes. Bon. Je pense que ça intéresse également d'autres gens qui n'ont pas signé.
Sans doute, hein, bien sûr, oui. Ouais.
Autre chose.
Ah ouais, moi toujours, hein.
Allez.
Allez. Bon, alors, c'est une vieille histoire, ça. On avait déjà parlé une fois, il y avait un gars à côté de l'incinérateur d'Evry qui avait des œufs de qui élève des poules, et donc il avait des œufs, et il avait trouvé de la dioxine. Et donc, à ce moment-là, les gens de l'incinérateur d'Evry, ils avaient dit « non, il n'y a pas de preuve ». Bon. Et donc là, j'ai un article du 15 novembre dont le titre est « À l'incinérateur d'Evry, un contrôle lacunaire des émissions de dioxine ». Donc, une étude révélée par Le Monde montre que les émissions de ces polluants n'aurait pas été mesuré pendant près de 7000 heures entre 2020 et 2021. Bon, mais si c'est pas mesuré, effectivement, c'est tranquille. Tranquille. Et donc, l'Agence régionale de santé recommande de ne plus consommer les œufs de poulailler domestique en Île-de-France. C'est pas seulement autour de l'Île, c'est carrément en Île-de-France. Les œufs des poulaillers domestiques en Île-de-France. Alors du coup, j'ai acheté des œufs récemment et j'ai regardé soigneusement l'étiquette pour voir d'où ça venait. Ça venait pas de la broche banlieue, donc je me dis bon, je peux aller. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a une étude qui avait révélé en février 2022 des niveaux très élevés de dioxine autour de l'incinérateur d'Ivry Paris 13. Et le gestionnaire de l'installation, l'Agence métropolitaine des déchets ménagers, qui s'appelle le SICTOM, avait écarté toute responsabilité. Ils avaient expliqué que les niveaux mesurés dans les grandes cheminées, les deux cheminées du plus grand incinérateur d'Europe, étaient systématiquement inférieurs et très inférieurs aux normes et faisaient l'objet de contrôles en continu, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Autrement dit, ne vous emmerdez pas, vous n'y connaissez rien, nous on fait notre boulot, voilà. Et ça, c'était les mots de son directeur général, Denis Pénouël, sur BFM TV. La question reste pourtant posée. L'appareil de mesure des dioxines n'aurait pas fonctionné pendant près de 7000 heures sur la période 2020-2021, souvent un nouveau rapport auquel Le Monde a eu accès. L'étude a été réalisée, de même que celle de février, par la fondation ToxicoWatch, une ONG néerlandaise constituée de chercheurs, qui fait référence dans l'analyse toxicologique des polluants émis par les incinérateurs et en particulier des dioxines. Aussi toxiques que persistantes dans l'environnement, les dioxines figurent sur la liste noire des composés chimiques les plus préoccupants de l'Organisation mondiale de la santé. Elles sont classées cancérogènes pour l'homme par le Centre international de recherche sur le cancer. Elles sont dangereuses même à des doses infimes, elles s'accumulent dans la chaîne alimentaire. Et l'étude de la biosurveillance de février 2022 avait mis en évidence les teneurs importantes de dioxine dans les œufs de poules élevés en plein air, autour de l'incinérateur, sur les communes d'Ivry-sur-Seine, d'Alfortville, dans le Val-de-Marne, et de Paris. Et depuis, l'Agence régionale de santé donc l'ARS, a réalisé depuis ses propres prélèvements. Et que dit-elle? Elle recommande de ne plus consommer d'œufs issus de poulaillers domestiques à l'échelle de toute l'Île-de-France. Alors, plusieurs fois annoncé, un rapport de l'ARS censé éclairer les sources de pollution est toujours en attente de publication, par contre. Alors, les œufs ne sont qu'un indicateur de présence de dioxine, commente Jean-Christophe Brassac, qui est le co-président du collectif 3R, ce qui veut dire réduire, réutiliser, recycler, qui a sollicité l'expertise de ToxicoWatch. Donc, interdire la consommation d'œufs de poulailler domestique participe certes du principe de précaution, mais il est essentiel d'identifier les causes de pollution, anciennes ou récentes, par les dioxines, afin de les réduire. Et donc, cette association qui milite pour des alternatives à l'incinération des déchets a obtenu du SICTOM des données brutes de 2020 et 2021, issues des capteurs de dioxine installés à l'intérieur des cheminées des deux fours. L'analyse qui a été confiée à ToxicoWatch montre que les appareils n'ont pas effectué de prélèvement pendant 6936 heures, c'est-à-dire 3269 heures pour le four 1, 3667 pour le four 2, entre le 24 décembre 2019 et le 21 décembre 2021, soit l'équivalent de 289 jours. Donc les dossiers d'information, disent-ils, du public, publiés chaque année par le site CTOM et Suez, l'exploitation de l'incinérateur, indiquent pratiquement toujours des émissions de polluants conformes aux valeurs réglementaires, mais quel crédit leur accorder si les appareils de mesure de dioxine ne fonctionnent pas pendant plus de 3000 heures par an, interroge M. Brassac. La surveillance des toxines devrait avoir lieu en permanence, rappelle Abel Arkambout, toxicologue et directeur de ToxicoWatch. Un nombre aussi élevé d'heures de défaillance de l'équipement de mesure indique que la combustion n'a pas été optimale en permanence et la probabilité d'émission de grandes quantités de dioxines est donc très élevée. Les dioxines peuvent se former en quelques secondes lorsque la température de combustion est insuffisante, c'est-à-dire inférieure à 850 degrés. Donc il y a contestation des chiffres. ToxicoWatch a mesuré la même analyse sur l'incinérateur Darlingen aux Pays-Bas sur une période de 2 ans entre août 2015 et septembre 2017. Les résultats contrastent fortement avec ceux d'Ivry-Paris 13. Les appareils de mesure des dioxines n'ont pas fonctionné pendant 173 heures et seulement durant la phase de maintenance où l'incinérateur est à l'arrêt. Toutes les situations lors desquelles la combustion est altérée, en particulier les arrêts et les redémarrages des fours, peuvent entraîner des interruptions des appareils de mesure. Or, elles sont aussi propices à d'importantes émissions de dioxines. Un arrêt des appareils de mesure de 5 heures et 45 minutes à Harlingen en octobre avait déclenché une enquête de 2 ans de la part du gouvernement néerlandais afin de trouver les causes du problème et des fortes émissions de dioxines associées à cette interruption. Ils sont bien, ces Hollandais, là, ils font des choses, ils bougent, ils ont. Pourquoi ça ne bouge pas chez nous, là ? Et contacté par Le Monde, le sitcom conteste ces chiffres, ah ben donc ça bouge, et mentionne pour sa part une durée totale d'indisponibilité de 335 heures sur la période 2021. Selon le tableau sommaire transmis par le gestionnaire de l'incinérateur, ces 335 heures ne correspondent qu'à l'année 2021. Il faut y ajouter 227 heures pour 2020, soit un total de 562 heures d'indisponibilité. Or, le chiffre est très éloigné de celui de ToxicoWatch. Les deux chiffres, de toute manière, ils contredisent aussi l'affirmation du directeur général du CITOM, selon laquelle les émissions de dioxines sont soumises à des contrôles en continu, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Autrement dit, il ne faut pas trop en faire, quoi, quand même. L'analyse par ToxicoWatch des niveaux de dioxines mesurés dans les cheminées révèle également que l'incinérateur d'Ivry Paris 13 a dépassé à 6 reprises la valeur limite de 0,08 nanogramme équivalent toxique, c'est-à-dire TEC, par nanomètre cube, fixé par un arrêté préfectoral du Val-de-Marne de 2018, et qu'il a dépassé la valeur réglementaire européenne, qui est 0,1 nanogramme dans la même unité, c'est-à-dire des équivalents toxiques par nanomètre cube, en août 2021. Dans son communiqué en 2022, le SICOTOM précisait que les valeurs de dioxine mesurées en 2020 dans les cheminées sont systématiquement inférieures ou très inférieures à la valeur limite réglementaire européenne, sans se référer à la valeur limite plus stricte fixée par la préfecture du Val-de-Marne, l'incinérateur étant situé dans une zone très densément peuplée. Voilà, alors dans un rapport de 2017, l'Agence de la transition écologique, l'ADEME, a adressé un bilan national des dispositifs de mesure de dioxine dans les cheminées d'incinérateurs français. Seulement 6% des résultats étaient supérieurs à 0,06 nanogramme TEC par nanomètre cube sur la période étudiée, c'est-à-dire 2011-2016. Et selon les analyses de ToxicoWatch, cette proportion atteint 20% pour les mesures 2020-2021 de l'incinérateur francilien. Alors l'ADEME a donc été contactée, elle n'a pas réédité son étude et elle précise, alors là je suis sur le cul, qu'elle ne dispose pas d'experts qui puissent répondre à ces questions. Bon, alors monsieur Abel Arkambout rappelle que la limite européenne pour les dioxines n'a pas été révisée depuis 1989 alors que les preuves scientifiques s'accumulent sur leur nocivité. Aux Pays-Bas, où un moratoire est en vigueur depuis 2009 sur l'incinération des déchets, une limite 10 fois plus stricte, qui est de 0,01 nanogramme TEC par nanomètre cube, a été fixée pour le dernier incinérateur construit en 2011 à Harlingen. Et si cette valeur limite avait été appliquée à celui d'Ivry-Paris 13, celui-ci aurait été en infraction durant toute la période 2020-2021, indique le toxicologue. Donc je viens de piller un article de M. Stéphane Mandard dans Le Monde du mercredi 15 novembre. Et moi, j'habite pas loin de l'incinérateur.
Et comme par hasard, on est allé dans le Monoprix d'à côté et le rayon œuf était vide.
Oui, ça, je ne sais pas si c'est...
Alors, est-ce qu'il y a une cause...
Là, je suis retourné aujourd'hui, il était plein. Bon, mais je ne sais pas...
Ils étaient tous périmés, alors.
Mais ils viennent peut-être de lointaines provinces.
C'était un problème de, mais, de réapprovisionnement. Mais c'est vrai que sur le coup...
Ce que j'ai compris, c'est que ça s'accumule. Donc c'est un indicateur de présence de la dioxine. Mais il y a des gens qui cultivent des légumes, bon, également. Et donc s'il y a de la dioxine sur les œufs, il faut faire attention avec les légumes, de façon à bien les... je ne sais pas dans quelle mesure ça pénètre sous la peau ou pas, mais c'est quand même très dangereux.
Je n'ai pas l'impression qu'il y ait des jardins. Il reste beaucoup de jardins ouvriers dans ce coin.
On parle de mais dans Paris, il y a par exemple des petits jardins qui sont proposés à l'entretien par la ville à des habitants. Et on peut y cultiver des tomates. Quand elles arrivent à maturation, elles disparaissent brutalement, disons. Donc il y a bien des gens qui
D'ailleurs, il y a un jardin sur le toit d'une école, pas loin de chez toi.
Oui, il y a des jardins sur certains toits, oui.
C'est un toit plat.
Pour végétaliser, pour...
Il y a un jardin potager sur le toit de cette école.
Oui.
Et voilà quoi. Donc, si les œufs sont touchés...
Pour les légumes, c'est une école primaire ou non?
C'est une école...
Non, c'est une école maternelle. Oui, c'est une école primaire, je crois.
C'est une école primaire. Non, alors...
Non, mais c'est sympa, le fait.
C'est symptôme. C'est difficile à dire, c'est symptôme. Hein.
Symptôme,
c'est alors, ça, moi, oui. J'en connais une aussi. Celle-là, tout le monde la connaît, je pense. Hein, celle qui est près de chez toi, tu dis, à Ivry, hein, porte
oui.
d'Ivry. Hein.
Oui, c'est ça.
Bon,
les deux grandes cheminées...
Ça crache toujours d'une manière incroyable.
Qui crache de la vapeur d'eau, normalement. Peut-être pas que...
Alors, il y en a une pareille, peut-être un peu moins forte, sans doute. Je ne sais pas, mais je ne connais pas la différence entre les deux. Mais symptôme, ils ont aussi un autre incinérateur... du même genre, est-ce que c'est aussi puissant ou plus, je ne sais pas, dans le nord, hein, à Gennevilliers.
Alors moi j'avais compris qu'il devait arrêter avec cet incinérateur et qu'il devait être question, et je croyais que c'était en train de se faire, il avait été question de le remplacer par un autre incinérateur, mais plus moderne, plus récent, et surtout d'une capacité beaucoup moindre. Ça m'avait surpris.
Ah oui. Alors, il va y avoir sans doute un problème pour la mairie de Paris, parce que ça commence à se savoir quand même, cet incinérateur-là, ou ces incinérateurs qui est autour de Paris, parce que beaucoup maintenant vont, et je crois que sur Paris, là où ça passe, ils vont être obligés de se connecter au chauffage urbain.
Oui, mon immeuble, il est connecté.
Mais qui vient grâce aux incinérateurs.
C'est la CPU, oui.
Oui. Et de plus en plus, les gens maintenant disent, nous, on n'en voudrait pas parce que... les incinérateurs, ça pollue.
Ouais.
Alors, donc, on va bien voir la mairie de Paris. Parce qu'attention, hein, la connexion avec la mairie de Paris, ça coûte bonbon. Hein. Ça coûte très, très cher. Oui. Voilà. Je crois qu'une connexion, ça doit être dans les 300 000 euros, je crois.
Une connexion, c'est-à-dire pour se faire chauffer ?
Pour le chauffage, oui, ouais. Avec la ville de Paris. Et c'est pas encore creusé, ouvert complètement partout, voilà. Mais dès qu'ils ouvrent dans un secteur, ils contactent tous les gens, et les gens apparemment seraient obligés de s'y connecter.
Ben nous, on est connectés. Ouais. Je sais que sous la rue de Chevaleret, qui est pas loin...
Je vois, plus bas, oui.
Il y a eu, lors de travaux, sans doute, il y a eu un ouvrier qui a été au minimum blessé. Disons, il y a un conduit de chaleur qui a explosé, un truc comme ça. Mais s'il y a un problème de dioxine, il peut essayer de mettre des filtres ou faire quelque chose. C'est pas...
Oui, c'est sûr, il y a des choses à faire, je pense. Oui.
you're a prima ballerina.
Allez, Radio Libertaire, The Post Non Radio Show, laissons place aux mauvaises nouvelles après les mauvaises nouvelles. Juste un intermède sur les personnalités décédées récemment dans le monde de la musique. On commence par la chanteuse française Buzy, Marie-Claire Giraud de son nom. Buzy de son nom de scène. Ah bon ? Autrice et chanteuse de trois tubes ou deux tubes dans les années 80, puis continuant à chanter malgré le fait qu'elle ne soit plus ensuite suivie par le public, qu'elle ne soit plus suivie en fait par les amateurs de musique, n'ayant plus fait vraiment trop parler d'elle, alors que compositrice, autrice de 10 albums, avec quand même des gens, des collaborations avec Alice Beauté, Daniel Darc, Corinne du groupe Téléphone. Elle est décédée récemment. Ensuite, Miracalix. Je l'ai raté. Enfin, façon de parler. Hein. Miracalix, musicienne, aussi compositrice de musique électronique anglaise. Qui elle est décédée subitement à l'aube de la cinquantaine en 2022. Elle avait en 2020 édité et créé trois masques contre, à l'époque du Covid, trois masques qu'on pouvait se mettre sur le visage, donc en tissu, d'ailleurs assez épais, qui était plutôt fait pour l'hiver parce qu'il tenait chaud, dont j'ai acheté un exemplaire. Des masques avec des motifs, de très jolis masques d'ailleurs.
Oui, il y en avait très beaux, oui.
Accompagné d'un montage sonore que j'ai diffusé à l'époque. Donc cette dame Miracalix est elle aussi décédée. Puis fin 2022, alors que moi-même j'étais un peu dans les choux, c'est Terry Hall, chanteur, musicien dans les groupes de Special, alors chanteur, musicien anglais dans les groupes de Specials, de Fanboy Trees, de Colorfield, et puis en carrière solo. C'est un chanteur qui ressemblait un peu pour moi à Robert Smith de The Cure, dans le visage, d'ailleurs j'ai trouvé très très séduisant à l'époque. Terry Hall aussi, lui, est décédé. Et enfin, Gabby Delgado du duo DAF avec Robert Gorle. Alors lui, je ne sais pas trop quand est-ce qu'il est décédé, je pense que c'est en 2023. Alors, DAF avait commencé leur carrière, leur périple musical dans les années 80 avec une électro un peu martiale, un peu homo-érotique également, on va dire. Et également légèrement, enfin, plutôt provocatrice dès le début, avec un titre qui s'appelle Dance to the Mussolini, un truc comme ça, qui avait un peu leur avait un peu donné une étiquette de gens un peu sulfureux d'extrême droite à cette époque, ce qui, je pense, n'était pas forcément le cas, mais ils ont eu une très très longue carrière. Robert Gorle, je pense, est encore en activité. Et voilà, c'est pour mes quatre. J'en avais un autre, un ou deux autres en tête hier soir, et puis je m'en suis plus souvenu du tout. Donc je me suis arrêté à ces quatre-là. Je voulais revenir sur ces quatre-là. J'ai également un numéro du magazine Uncut, celui du mois de juillet, je crois, ou juin, où ils fournissent une page entière, deux pages de rubrique, comment on appelle ça, de rubrique nécrologique. Donc je vais la feuilleter juste après, voir si je ne rajoute pas quelques autres que je connaisse, hein, parce qu'après il y a un tas de gens que je ne connais pas dans cette liste. Donc voilà, morceau, et puis retour juste après.
Thank you.
Wow, The Postman Radio Show, Radio Libertaire.
Eh oui, donc je suis revenu à un numéro plus récent du Monde Libertaire sur 2023, puisque 2023, enfin. j'y étais plus, mais l'autre c'était quand même 2023, c'était le mois de mars simplement, mais il s'est passé beaucoup de numéros quoi, entre mars et puis novembre, hein. C'est ça qu'il y a, c'est que le numéro il est mensuel, hein, voilà. Alors là, il y a un autre livre, hein, que c'est pareil, on le trouve à Publico, on peut le voir, Les anarchistes face à la Première Guerre mondiale. Moi ça m'intéresse parce que j'ai des membres de ma famille qui sont allés, qui sont revenus avec de la chance, d'autres qui... un grand-oncle, hein, qui est mort de faim, à quelques jours de la cessation de la guerre, voilà, de la fin de la guerre, du 11 novembre. Donc, alors, Kropotkin et la Grande Guerre est le titre d'un livre de René Berthier. C'est curieux que René Berthier, d'ordinaire, il écrit des choses toujours politiques, mais beaucoup plus proches. Quoique, avec les guerres maintenant, on fait des parallèles, hein, beaucoup, surtout la Première Guerre mondiale, la manière dont ça se déroule, tout ça, les tranchées, quoi, les soldats, donc au terrain, sur le terrain même. Et... Donc, René Berthier, il écrit ça entre novembre 2010 et février 2014. Voilà. Publié aux éditions du Monde Libertaire en août 2014. Alors, le titre peut faire penser qu'il s'agit d'un ouvrage qui analyse les rapports entre Kropotkin et la Première Guerre mondiale. C'est le cas, mais c'est loin d'être tout le contenu de l'ouvrage, hein, comme le témoigne son sous-titre. C'est sous-titré « Les anarchistes, la CGT et la social-démocratie face à la guerre ». C'est un grand sous-titre, hein. Alors, il est constitué de 4 parties. Il y a une partie qui s'appelle « Les prémices ». Bon, voilà, ça on comprend bien. La deuxième partie, c'est « Anarchistes et syndicalistes ». Oui. Et puis, anarchiste syndicaliste face à la guerre, pardon, toujours là. Hégémonie ensuite du socialisme allemand et illusion des socialistes français. Et puis un avant-propos et puis des annexes, voilà, qui est considéré comme une quatrième partie, mais enfin un avant-propos, c'est au début du bouquin quand même, oui. Voilà, sauf les annexes qui se trouvent en bas de presque toutes les pages, je pense, hein, parce qu'il y a sans doute beaucoup de choses à... Il puise ces informations d'ailleurs dans beaucoup de ce qui a été écrit déjà. Alors pourquoi ce titre, si la majeure partie du bouquin ne parle pas directement de Kropotkin, et pourrait être titré « Mouvement socialiste au début du XXe siècle et la guerre ?» Point d'interrogation. Déjà parce que c'est long. Ensuite, à mon sens, il vaut mieux avoir un titre racoleur avec le nom de quelqu'un de connu. Je n'aurais sûrement pas acheté moi-même, hein, Mouvement socialiste du début du XXe siècle et la guerre. Mais j'ai acheté ce bouquin. Ce n'est sûrement pas l'idée qu'en a eu Berthier, car le début de ce livre est de permettre au mouvement libertaire de se décomplexer par rapport aux attaques qui ont été menées contre lui, sous prétexte qu'une poignée de militants ont signé le manifeste des 16. Voilà, des 16. Et effectivement, on entend toujours, quand il s'agit de la Première Guerre mondiale, la position de certains anarchistes qui ont refusé de participer. Et puis d'autres qui ont dit non, nous, on s'y engage. Alors, je conseille ce bouquin pour le côté historico-politique, les différences et rivalités entre socialisme français et allemand, le côté syndical et le côté parti politique, avec une touche, entre parenthèses, qui m'a marqué, de position des socialistes sur la colonisation. En plus de son caractère historique intéressant, le texte permet de voir plusieurs positions dépendant de divers contextes chez les socialistes, qu'ils soient anarchistes ou non, hein, face à la guerre, et permet de développer, à partir des différentes positions défendues, un avis politique à une période où une certaine guerre en Ukraine a fait couler beaucoup de sang, là c'est du réel, hein, le propre d'une guerre, ainsi que beaucoup d'encre, là, dans le monde libertaire, où l'on parle des discussions entre les différentes composantes du mouvement anarchiste et du journal sur lequel j'écris ces lignes. Alors, pour vous donner envie, eh bien, de le lire, tout simplement, je vous laisse sur une citation montrant le style piquant de l'auteur. Voilà ce style. Alors, c'est le lecteur aura peut-être l'impression que le présent travail est destiné à justifier les prises de position de Kropotkine en 1916 ou à faire le procès de la social-démocratie allemande. Il aura tout à fait raison. Voilà. C'est Hello des Libertaires. Hello des Libertaires. C'est le groupe La Sociale qui édite en fait ça. Ouais. Voilà. Ouais.
Ah, c'est à moi, là.
À lire, tout simplement, hein, Librairie Publico.
Oui, j'étais...
J'étais... Oui, parce que tu veux nous repasser un morceau déjà de... Oui.
Ah non, pas du tout, vous pouvez continuer. Oula.
Oui, j'ai tapé.
T'as tapé, oui.
Yves, tu... T'as presque plus rien, je crois.
Ah, si.
Je plaisante.
Non, mais je renonce à détailler tous les articles. Oui. Mais il y a quand même eu un article dans... Le 17 septembre et 18 septembre, il y a une partie du monde qui s'appelle Planète le dimanche et lundi. Et c'était un titre extraordinaire. La sécheresse, de point, le canal de Panama au ralenti.
Oh.
Alors, il faut savoir que le canal de Panama, qui a été ouvert en 1914 à peu près, d'un côté, il y a le Pacifique, de l'autre côté, il y a l'Atlantique.
Oui, oui.
Et puis, entre les deux... Eh bien, en fait, ils ont renoncé à faire un système un peu comme au canal de Suez, parce qu'au canal de Suez, les deux mers sont au même niveau. Là, eh bien, ils ont été obligés, en fait, d'utiliser un lac artificiel qui s'appelle le lac Gacon. Donc, il y a 26 mètres, 25 mètres ou 26 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Oui, oui.
Et donc, le problème, c'est que ces 26 mètres, ils sont descendus à 24 mètres récemment. Et donc, les gens s'inquiètent parce qu'en fait, ils ont été obligés de restreindre le trafic. Et en août dernier, le temps d'attente pour franchir le canal est grimpé à 21 jours contre 4 en temps normal. Et ils ont réduit le transit de 40 à 32 navires par jour. Et il faut savoir que les bateaux qui passent par là, ils font 350 mètres de long, quoi, la longueur de la place de la Concorde, disent-ils. Bon, voilà. Et donc, alors, il y a ce genre d'article. J'ai un autre article, je ne vais pas détailler, mais il y a un autre article qui est « Le Mississippi envahi par le sel et la pollution ». Autrement dit, il y a deux types de problèmes. Il y a la sécheresse et puis il y a le problème des pollutions. Donc là, c'est également une page entière, c'est daté du 16 novembre. Où ils disent que tout un modèle est remis en cause depuis 150 ans, le fleuve a été transformé en autoroute fluviale et ben, ça commence à poser des problèmes. Il n'y a plus d'îles, il n'y a plus de monde de sable, il n'y a plus de place pour les poissons. Voilà. Et la sécheresse menace l'activité sur ce fleuve américain très industrialisé et le delta de Louisiane s'enfonce. Et puis il y a encore un truc du genre... dans le Monde du 9 novembre, il y a encore un article, cette fois-ci c'est dans les pages économie et entreprise, en Provence, Sault, S-A-U-L-T, au cœur de la crise de l'eau. Alors on voit une photo où il y a une bâche de stockage de l'eau qui a été installée pour une distillerie de lavande, près de Sault, dans le Vaucluse. Et donc,
c'est une bassine.
C'est en fait une bassine. Oui, il y a un petit robinet au-dessus pour sortir la flotte. C'est une sorte de gros oreiller qui doit faire, c'est peut-être 30 mètres de long sur
quand même,
10 mètres de large, vu la taille des arbres. Voilà. Et cet article, il commence par l'été 2022, quand on a dit à la société hippique qu'il ne fallait pas arroser la piste. Ça a fait un scandale et c'est remonté jusqu'au préfet. Bon. Ils ont un problème avec... Et ce que dit l'article, que je ne peux pas résumer, c'est trop long, mais ils disent qu'en septembre, début septembre de cette année, 189 communes en France étaient encore alimentées par des camions-citernes. Et la ressource en eau existe, mais 800 mètres plus bas, sous forme de rivière souterraine, difficile à capter, bon voilà... Alors des villes comme Montpellier, Dunkerque ou Libourne font payer plus cher les mètres cubes de confort. Est-ce qu'il faut différencier la consommation l'hiver de la consommation de l'été? Bref, des problèmes comme ça.
Les courses hippiques, quoi, oui, voilà. Est-ce qu'il faut informer les chevaux?
Oui, il y a. On a entendu parler à un moment des greens, enfin des. Comment ça s'appelle? Des trucs qu'on fait.
Ah oui, oui, je vois.
Autre article, le dimanche 5, lundi 6 novembre. Un truc incroyable. Une sécheresse historique fait reculer le lac Titicaca. Bon. 3 millions d'habitants dépendent de ce réservoir d'eau douce qui s'est rétréci par endroits de 2 km.
Oh là,
donc là, là, on voit bien un truc de climat. Il y a la Guadeloupe, le problème sans fin de l'eau, un article du 14 octobre. Donc, ce que je veux montrer en faisant cette énumération et sans rentrer dans le détail des articles, là, des élus de l'archipel demandent la prise en charge des factures, on les fournit en bouteilles d'eau, de même que d'ailleurs à Mayotte, je crois, où il y a un énorme problème de ce point de vue-là. En Guadeloupe, encore un autre article, la question de la potabilité de l'eau loin d'être réglée. Le passage de l'ouragan Tamil le 21 octobre a encore une fois montré la fragilité du réseau qui enchaîne les alertes à la non-conformité. Donc turbidité, ça veut dire de la boue quoi, dans la flotte, et bactéries. Et puis enfin, des alertes à la pollution de l'eau potable, parce que là on est loin, mais en France, comment on dit maintenant, hexagonale. Les alertes à la pollution de l'eau potable se multiplient en France. Et je me suis dit, tiens, si je tape... j'ai pris le journal Sud-Ouest, et il y a possibilité de rechercher, vous savez, de rechercher un article, etc. Donc j'ai tapé captage, avec un S, peut-être sans S, ça marche moins bien. J'ai trouvé 291 articles. Alors le premier, c'est « La lente agonie des captages... » Merdouille, j'ai perdu le mot de ma page, quel gouillon. Donc je recommence. « Captage... »
La lente agonie... des captages.
Ah là là, c'est le direct avec la merde. Voilà, donc je recherche...
C'est pas ce qu'on a dit. Hein.
Heureusement, moi l'odeur.
Captage.
Oui.
Je mets un S pour que ce soit comme tout à l'heure. Voilà. Premier truc, premier article, Charente-Maritime, la lente agonie des captages d'eau. La Rochelle, ensuite, les captages d'eau en pause après la découverte d'un fongicide. Eau, plusieurs captages d'eau potable fermés à cause d'une pollution aux pesticides. Charente-Maritime, des actions pour préserver la ressource en eau potable en protégeant, etc. Fongicide découvert dans l'eau à La Rochelle, la mise en place d'un principe de précaution, etc. Bon. Et il y a donc 291 articles qui contiennent ce terme. Ça ne veut pas dire qu'il y a un problème de pollution sur chacun, mais on voit que c'est un sujet chaud. Et oui. Là, cet article qu'il y a dans Le Monde du vendredi 10 novembre sur l'eau, il s'agit quand même de Paris à un moment. Enfin, je dis quand même parce que j'y habite. Mais ça... Bon, j'ai parlé d'abord de Sud-Ouest. On a une pollution par un truc qui s'appelle le R471-811, qui rendrait non conforme aux critères de qualité de l'eau plus d'un tiers des Français, notamment à Paris. Ah bon ? Monsieur Don Lert, président de l'eau de Paris, la régie chargée de l'approvisionnement de la capitale, reconnaît qu'en moyenne, l'eau distribuée aux Parisiens comporte une concentration de 0,5 microgrammes par litre de R471-811. On va l'appeler alpha hein, pendant l'article. Un taux 5 fois supérieur au seuil de qualité, mais inférieur à la valeur sanitaire provisoire. Ah, c'est quoi ça, la valeur sanitaire provisoire ? Bref, M. Lert assure que l'eau distribuée aux Parisiens est sûre. Bon, moi j'ai travaillé beaucoup avec des biologistes pendant une longue période et ils me disaient qu'on était un peu coincés parce qu'en fait l'eau du robinet, ils refusaient d'en boire. Et l'eau en bouteille, le plastique a tendance à rentrer dans l'eau. C'est-à-dire quand c'est des bouteilles en plastique, le plastique a tendance à se diffuser un peu dans l'eau qu'on boit. Et donc ça devient un peu insoluble. Il faudrait en fait des bouteilles en verre. Bon, mais on n'en prend pas le chemin apparemment.
Non.
Mais voilà, la détermination des risques réels induits par la présence de ces substances est... complexe. Donc, il y a un seuil sanitaire au-delà duquel un risque pour la santé est avéré, qui est généralement établi en extrapolant à l'humain des études menées sur des animaux de laboratoire, mais de telles études manquent. Pour les métabolites de pesticides les plus fréquemment retrouvés, ce seuil provisoire était fixé à 3 microgrammes par litre dans l'attente de plus de données. Bon, il y a, ça, c'est pour Paris. Je me rappelle d'avoir lu des choses sur les PFAS dans la région lyonnaise. Je suis tombé là encore sur des articles qui disaient pour telle commune, voilà, il y a tel problème, etc. Ils recensent, ils essaient de recenser les différentes usines qui auraient pu déverser des PFAS. Donc c'est des polluants éternels. Les... Alors j'ai aussi un article qui montre que c'est pas spécifique. Bon, à la France, il y a en Belgique, on cherche les responsables en Belgique. Ok, ils sont méchants. La ministre wallonne de l'environnement aurait été avertie de la présence massive de polluants éternels dans l'eau de consommation. Donc ça, c'est en Wallonie.
Ah oui. Elle est avertie une fois.
Oui, une information ignorée. J'avais pas tilté. Bon, oui. Éclatement des responsabilités, erreur administrative ou politique, coupable insouciante généralisée. Après une récente audition de Céline Tellier, ministre régionale de l'Environnement, on ignore toujours pourquoi environ 20 000 habitants de la Wallonie ont pu consommer jusqu'en mars de l'eau contaminée par des substances per- et polyfluoroalkylées, ben c'est les PFAS, des produits chimiques ultra-toxiques et très persistants, alors qu'un signal d'alarme avait retenti 13 mois plus tôt. Donc, il y a eu un débat extraordinaire convoqué au Parlement régional. Madame Tellier se longuement défendue, affirmant qu'à aucun moment elle n'avait reçu une information quant à une menace imminente pour la santé de la population. L'armée américaine qui dispose d'une base à Chièvre, dans la province du Hainaut, avait pourtant alerté dès 2018 sur une contamination au PFAS consécutive à l'utilisation de mousse anti-incendie. Et ces polluants éternels peuvent perturber, donc on rappelle, le système immunitaire, engendrer des cancers, des problèmes thyroïdiens ou menacer le développement du fœtus. Et ce qui fait que les militaires ne consommaient plus que de l'eau en bouteille. Mais les habitants de la région n'en ont rien su. L'expert de la région chargé du dossier n'aurait rien fait de cette information. Il officiait encore comme conseiller au cabinet de Madame Tellier, laquelle est entrée en fonction à l'automne 2019, mais vient d'être écartée en raison de, ouvrez les guillemets, son manque de vigilance. Bon, alors le service public de Wallonie, qui s'appelle le SPW, l'administration régionale, avait lui transmis un rapport pointant les dépassements de la future norme européenne qui rentrera en vigueur en 2026, on a le temps, et fixe une limite de 100 nanogrammes de PFAS par litre d'eau. Un pic de 400 nanogrammes avait été relevé en certains endroits en octobre 2021, et un courriel brut, une transmission d'informations sans message d'alerte, soutient le ministre. Et donc, elle n'aurait de toute façon pas reçu en direct ce document. Bon, c'est un courriel, hein. Donc, il y a des courriels qu'on reçoit en direct et d'autres. Ouais, j'ai pas compris. La société wallonne de distribution de l'eau et son président avaient eux aussi été alertés et invités par l'administration à mettre en place un plan d'action pour la filtration de l'eau. Bon. Ils auraient mis 9 mois à le réaliser tout en estimant qu'il appartenait en fait au SPW d'agir. En tout cas, personne n'a jamais songé à informer les maires et les communes les plus concernées. Mardi, avant un nouveau débat parlementaire qui devait se tenir le jeudi 16 novembre, des députés de l'opposition comme de la majorité ont aussi interpellé Madame Tellier sur le fait qu'à deux reprises, en mars 22 et mars 23, son homologue flamande l'avait averti de la présence trop élevée de PFAS dans l'eau wallonne livrée à la Flandre. Une région très attentive au sujet depuis une gigantesque pollution aux PFAS engendrée par une usine du géant 3M près d'Anvers. Madame Tellier soutient que sa proposition de collaboration pour régler le problème est restée sans réponse. D'où la volonté de certains élus de clarifier cet élément du dossier et beaucoup d'autres en organisant une commission d'enquête spéciale chargée d'entendre tous les protagonistes. Un vote sur cette question pourrait entraîner une division au sein de la majorité régionale. Oh, j'ai l'impression d'un pays qui discute. Peu rassuré, même si la SWDE assure que l'eau est désormais potable et sans danger partout, Les responsables de plusieurs municipalités du Hainaut ont en tout cas pris au début de la semaine des mesures d'interdiction de consommation d'eau courante, comme celle de, tiens, et de légumes de jardin potentiellement contaminés. Tiens. Des maires entendent aussi mener leurs propres tests sur l'eau. Ah bon ? Et ils réclament des examens médicaux gratuits pour leurs administrés. Ah ben ça va loin quand même, hein, c'est bien. Sur le plan politique, personne n'a à ce stade prouvé que la ministre écologiste, une ancienne responsable de la Fédération des associations de défense de l'environnement en Wallonie, aurait menti, et elle-même rejette fermement l'idée d'une démission, même si la question de sa responsabilité politique est posée compte tenu de la tutelle qu'elle exerce à la fois sur l'administration et la SWDE. Bon. Dans l'immédiat, Mme Tellier dit vouloir instaurer de nouveaux seuils de vigilance en fixant des limites très strictes, c'est-à-dire 30, voire 4 nanogrammes par litre, pour la présence dans l'eau des PFAS les plus dangereux. Propos qui contrastent avec ses affirmations antérieures sur le caractère non inquiétant de doses qui n'atteindraient pas 100 nanogrammes par litre. Son parti, qui s'appelle Écolo, a lui lancé la contre-offensive en rejetant la responsabilité des pollutions PFAS sur l'industrie et les conservateurs qui ne veulent pas faire évoluer les règles européennes. Sont visés les partenaires libéraux des Verts au sein du gouvernement de la région. Donc il s'agit de la Wallonie en Belgique et de l'eau contaminée aux PFAS. Donc on est un peu en train d'entrer dans le même problème là, avec ce qui se passe autour de Paris apparemment, mais bon. En tout cas, c'est le cas autour de Marseille. Il y a un article un peu en dessous qui dit que certains pesticides sont aussi des polluants éternels. Bon, je ne m'appesantis pas, je n'ai pas envie de faire des cauchemars pendant toute la nuit, mais il y a quand même deux pages complètes de l'édition du vendredi 10 novembre sur ces alertes à la pollution de l'eau qui se multiplient en France. Et les recherches seront obligatoires en 2026. Ben, je suis content.
face with your eyes, so pale and sincere. Underneath, you know well, you have nothing to fear.
Radio Libertaire de Post Non Radio Show, et Serge nous a appelé, je l'ai raté. Et la programmation de ce soir, j'ai failli ne pas la faire, puisque, enfin ne pas dire, puisque j'ai trop la flemme, je suis fatigué, mais je vais quand même le faire. Il s'agit d'une sélection de 45 tours environ, ils sont dit environ deux. 19h45 tours, évidemment nous n'allons pas tout écouter ce soir, pas toutes les faces, mais nous avons commencé par une réédition sous format un peu luxe d'un 45 tours de couleur bleue de David Bowie avec les deux mêmes titres, face A et face B, Heroes. Alors enregistré dans deux endroits différents du monde. Nous avons ouvert avec le concert, enfin, Heroes joué pendant le concert du Tokyo Dome à Tokyo, au Japon, en 1990, et retransmis à la radio, et nous fermerons probablement cette émission avec la version enregistrée à Montréal, au Montréal Forum au Canada, en juillet 83, et toujours retransmis également à la radio, c'est paru en 2023. Il y a eu également un split 45 tours du label Bella Union Records, le label de l'ex Cocteau Twins, avec d'un côté Mercury Rêve, je cherche mes papiers, d'un côté Mercury Rêve et de l'autre Lost Horizon, ce sera pour une prochaine fois peut-être. Un autre split 45 tours du label Glass Modern Records, Sonic Youth, que nous avons écouté, Personality Crisis de 1992. De l'autre côté, il y a The Pastels, c'est paru en 2021. Il y a eu également SSVU, David Lynch as a Painting Made of Fly's Eyes. Et là, on va s'écouter la face B tout à l'heure. Suzanne Ciani, New Machine Recordings 2022. Il y a eu ensuite Inkno Mortal Orchestra, c'est encore un split 45 tours, Can't Keep Checking My Phone. La face B, c'est Silicon. Et c'est paru en 2016 chez Jack Jugawar. Et ça, peut-être une autre fois pour la face B, car il y aura une autre émission avec le reste des titres, et certainement mélangé avec d'autres 45 tours, une autre programmation. Et puis, juste avant Les Fontaines d'ici, chez des éditions Jo-Bernard Castagnieri, les tigres du futur, la face A, les éventreurs du dancing. Alors, il est dit que ce disque est destiné à faciliter le travail des illustrateurs sonores de radio, de télévision et de cinéma, et qu'il peut être utilisé par les cinéastes amateurs pour des projections privées, et que c'est un disque stéréo qui peut être utilisé sur un électrophone mono. Je ne sais pas quand trop c'est paru, c'est assez récent, mais les titres ont l'air d'avoir été enregistrés il y a quand même pas mal de temps. Et enfin, juste à l'instant, un autre split 45 tours, Fontaine DC, Let's Eat Grandma. Et là, c'était le titre de Fontaine DC. Un split 45 tours qui rend hommage à un tribute aux chansons, aux morceaux de Nick Drake, The Endless Colored Ways. Et c'est paru sur un label polonais en 2023 qui s'appelle Blue Raincoat Music, je crois. Non, je sais pas. Oui, c'est ça. Peut-être. Voilà. Voilà pour le moment pour ce qui est de ce programme musical. J'ai pas l'impression d'avoir passé tout ça en même temps. J'ai pas l'impression d'en avoir passé autant.
Ah bon? Oui.
Je sais pas, j'ai perdu le fil ce soir.
Oui, mais...
Moi j'ai perdu le fil sur les alertes à la pollution de l'eau, j'y reviendrai la semaine prochaine.
Enfin, moi c'est pareil, hein. je reviendrai la semaine prochaine.
C'est vraiment grave, quoi.
Me tenir au courant de ce que je passe, et pourtant cette émission est archi préparée, mais bon, les choses faisant que la vie quotidienne fait que, etc., etc., je ne suis pas en extrême forme aujourd'hui, mais j'ai dit que je ne me perdrais pas en considération brumeuse et fumeuse et personnelle ce soir. Donc, je ne sais pas pourquoi Serge voulait nous appeler. Il m'a dit que tu ne lui avais envoyé aucun article, mais Serge, sache non. qu'il n'a pas eu le temps
non.
Et puis de les scanner. Si qu'il y en a, une pile.
Je proteste, ça me prend deux. Là, si je fais tout, j'en ai pour des heures.
Donc, là, t'en as pour trois jours, là.
Et puis en plus, j'ai pas réussi à choisir vraiment. C'est pour ça que j'ai fait
une sorte de revue de tous les articles.
Et encore, tu en as lu, certains un peu longuement. Hein. Je pensais que tu allais faire plus rapide.
Ne serait-ce que l'accumulation d'articles sur ce sujet est un élément de preuve de la gravité de la situation actuellement en France. Quoi.
Et quand mais on tout est détail, grave. Et quand on rentre Yves, dans le détail, tout est grave. Tout est grave. Où que tu te tournes, tout est grave. Enfin, c'est mon avis. Hein.
Les mauvais articles, tu te torches avec ? Non. Non.
Je lis Le Monde et Le Canard et il n'y a pas de mauvais articles dans Le Monde et Le Canard. Donc je prends des papiers de toilette comme tout le monde.
Non, d'accord. Okay. Il fallait qu'on ait... Oh ! Attention. Allô ?
Oui, oui. Ah, attention, c'est Serge. Ah, on l'entend.
Alors,
on l'entend.
Lequel est-ce ?
On l'entend un petit peu.
Comment je fais ? Je fais ça, oui, Serge.
Allô ?
Allô, allô.
Allô ?
Oui.
Tu nous entends tous.
Bonsoir, ouais. Henrik. Bonsoir, Yves. Bonsoir, Guy.
Oui, bonsoir, Serge. Ouais.
Comment allez-vous ?
Bien, bien, bien.
Bon,
bien.
Ouais, ça va, on se traîne.
On remonte, oui.
On se traîne dans la vie, chérie.
Oui. Mais j'ai appris effectivement, bon, c'était pas une surprise qu'effectivement pour la pollution au glyphosate et aux divers, comment dire, polluants, etc., allait être acceptée. On se demande qu'est-ce qu'on va devenir justement avec tout ce poison qui est dans l'eau et qui va dans l'eau.
Le glyphosate, là pour le glyphosate, c'est réglé pour les 10 prochaines années. Hein.
Oui, parce qu'ils ont accepté.
Oui,
bon. Mais là, ce qui est grave, c'est qu'ils s'aperçoivent que certains pesticides sont aussi des polluants éternels, et donc ils commencent à découvrir en fait l'étendue du problème. Et y a un véritable désarroi des autorités, apparemment.
C'est ça, exactement, tout à fait. J'ai une question pour Henrik. Je n'ai pas suivi depuis le début de l'émission, mais qu'est-ce qu'un split record ?
Un split 45 tours, c'est quand il y a deux groupes, un groupe par face.
Ah, d'accord. Okay.
Voilà. C'est quand il y a un groupe par face.
Un groupe par face ?
Oui, il y a un groupe sur une face, un groupe de musique ou un chanteur sur une face, il y a un autre chanteur sur une autre face.
Mais tu parles des faces ou des faces ?
Des fesses. En anglais, non. C'est fesses.
N'importe quoi.
En anglais, si, c'est... Moi, je cause anglais, hein, tu sais, un peu.
Oui. Ah ouais.
Comment vas-tu, Serge ?
Je vais bien. Les journées sont agréables, à peu près agréables, il fait beau.
Okay,
je suis dans le sud de la France.
Donc, on arrive.
Exactement. Je suis dans une grande propriété je fais le gardien de cette propriété. Voilà.
Moi, j'aimerais volontiers venir te rejoindre quelques jours. Je ne dirai pas non. Si je
pourquoi
suis.
Pas.
Ben écoute, moi je veux bien parce que là j'en ai un peu. J'ai quelques trucs à faire.
Voilà.
Là, mais si je suis.
Je vous souhaite une très bonne soirée sous le temps.
Tout le temps médiocre.
Plus vieux de Paris.
Médiocre et plus vieux de Paris, c'est ça.
Eh, Serge.
Oui, tout à fait.
Serge.
Il y a trois jours, j'avais 25 degrés. Hein, donc
merde.
J'ai pu bronzer à poil de sur autour de
la. Oh, bah d'accord, on va tout savoir. Merde.
En tout cas, je vous souhaite une excellente nuit.
Attends.
Une excellente fin d'émission.
Attends, Yves a une question pour toi.
Non, c'était pas une question, c'était. Une salutation sur ce que tu m'as appris à pas faire.
Ah oui.
T'as entendu, ça y est.
Il a défoncé la table.
Il a tapé sur la table.
Ouais, voilà.
Oh, bon.
Bon, et Serge, dis donc, tu as une préférence alors si tu bois plus d'eau?
Je ne sais pas, justement. Je vais peut-être me mettre à la bière, bien que dans la bière, il y ait de l'eau quand même. Hein.
Oui. Ah oui, il faut de l'eau. Oui.
Oui.
Tu nous informeras alors. Hein. Oui.
Serge Boisse, oui, mais t'as l'air vraiment super heureux là où t'es.
Oui, ça va. Je suis tout seul, mais j'ai la compagnie de deux chats que je garde. Voilà.
Ah, ok, d'accord, tu nous diras. Mais...
Oh, les chats, et devinez comment ils s'appellent. Comment ils s'appellent, les chats?
Non, vas-y.
Alors, il y en a un qui s'appelle Chatouille.
Oui.
Et le deuxième s'appelle Gilly.
Ah oui, oui, oui.
Ok, d'accord.
Voilà.
Okay,
ils sont mignons comme tout, un peu capricieux, hein, parce que
oh, tu fais envie.
Veulent sortir.
Ouais, c'est des chats.
Ils miaulent, ils sont un peu chiants, mais ça va, quoi.
Oh, t'as l'air, rien que ta voix, t'as l'air tellement détendu et que ça donne envie de te rejoindre, écoute.
Bon, en tout cas, je vous souhaite une très très bonne nuit. Bonne fin d'émission, je vous écoute jusqu'à la fin. Okay. Et je donne rendez-vous aux auditeurs le 1er décembre.
Ben avec joie. Et après, on repartira dans le sud.
Et à demain, voilà. Donc, au train d'Avignon à 18h.
Voilà. Tout à fait.
Ciao.
Allez, bonne soirée. Hey,
ciao.
Salut Serge.
Radio Libertaire, The Postman Radio Show, SSVU, Suzanne Chiani, qui est une musicienne contemporaine. Mais oui. Apparemment, ce groupe aime jouer avec la contemporanéité. Ah, c'était super d'avoir Serge à l'antenne.
Ah oui, oui, oui. Ah oui.
Alors vraiment, on donne l'impression d'être des gens absolument sans aucune conscience, qui n'ont aucune envie.
C'est foutre le camp.
Foutre le camp. Foutre le camp dans le sud et ne rien branler en vacances, voilà. Des espèces d'opportunistes individualistes qui n'en ont rien à faire de rien. Eh ben oui, mais de temps en temps, de toute façon, c'est un peu ce qui résulte de tout ce, ça, c'est que on a envie de s'évader, de s'enfuir, même pas de s'évader, de s'enfuir et de s'échapper, quoi. Quoique je sois allergique aux chats.
Et pas aux grenouilles, apparemment.
Pas aux grenouilles, apparemment. Alors, tu m'as demandé de te dire au revoir parce qu'il est ouais. l'heure pour toi de nous quitter.
Oui,
Yves, à bientôt, à la semaine prochaine.
À bientôt, j'ai pas parlé d'un tas de trucs, j'ai pas parlé de Total, j'ai pas parlé des Jeux Olympiques, j'ai pas parlé...
Oh ben, ça, les enfin, jeux, bon, voilà. Ça les jeux, il y en a une pile.
Oh, il y en a une pile, oui.
Ça nous donnera l'occasion de rempiler la semaine prochaine si on n'est pas parti en vacances. Car désespérément, c'est ce dont on a besoin. Vraiment, je me donne l'impression de vraiment d'être, comment dire, de quelqu'un qui fuit, quoi.
Bah toi, t'as besoin de vacances, attends. Ça...
Ah, moi, j'ai encore besoin de vacances, ça, c'est clair. Hein. Ça, c'est archi clair.
Bon, allez, donc, je salue tout le monde.
Ah oui, moi je vais décrocher aussi, hein, je vais pas...
Eh bien moi je vais passer encore 2-3 titres et puis je vais boucler la maison, enfin le studio, nous laisser avec les enregistrements nocturnes du multivers de Postman Radio Show, comme d'habitude, mais en attendant, un autre titre et cette fois-ci c'est T-Rex, une réédition collector. Je ne sais pas si c'est collector, c'est plutôt une réédition pour fans sur un 45 tours picture disc T-Rex. Et c'est 20th Century Boy.